métropole, en proche banlieue, etc. Et donc aujourd'hui, plus grand monde ne résiste finalement au Rassemblement national. Vous avez y compris des électeurs aujourd'hui très modérés de centre-droit qui votent Rassemblement national ou qui votent en tout cas pour Jordan Bardella. Il y a aussi ce sujet-là, à mon avis, qui est important dans la normalisation, dans la dédiabolisation, c'est que le fait que Jordan Bardella ait personnalisé la campagne autour de son nom et autour de lui
Et
a
qu'est-ce qu'il
permis
apporte
aussi d'aller.
justement? Qu'est-ce qu'il fait changer?
Il s'appelle pas Le Pen, ça c'est très important. Quand vous discutez, nous on discute beaucoup avec les électeurs dans des entretiens, dans ce qu'on appelle des entretiens qualitatifs. Le fait qu'il ne s'appelle pas Le Pen, le fait qu'il soit plutôt issu d'un milieu populaire, le style aussi qu'il a, c'est-à-dire un style assez entre
Le
guillemets.
milieu populaire, en tout cas, c'est ce qu'il a voulu véhiculer parce qu'il a quand même passé sa scolarité dans des écoles privées, donc payantes.
Personne ne le sait, ça.
Oui, mais ça fait partie de l'image qui est véhiculée. Mais de fait, la situation est un peu moins nette que le récit qu'on en fait.
Tout à fait, mais ce qui est perçu dans l'électorat, et c'est ça qui est important, c'est ce qui est perçu qui est important, c'est que il n'est pas d'extrême droite, c'est ça le sujet. C'est que c'est les gens qui, si vous voulez, de droite modérée, de droite qui votaient UMP il y a encore quelques années et qui aujourd'hui votent pour le Rassemblement national, n'ont pas l'impression de voter pour un parti d'extrême droite, n'ont pas l'impression de voter pour un parti dangereux pour la démocratie. Donc pour faire écho à ce que disait Étienne Auillon juste avant, effectivement, vous pouvez continuer à, on peut continuer à dire que le Rassemblement national est en dehors de la République. Ça n'entre pas en résonance, si vous voulez, avec la réalité électorale, en tout cas de toute une partie de l'électorat de droite qui aujourd'hui a l'impression de voter pour un parti effectivement complètement banalisé, complètement normalisé. Le sentiment que le Rassemblement national ne fait plus partie de, ne fait pas partie du champ républicain est quasiment minoritaire aujourd'hui dans l'opinion.
Et alors Stéphane Fournier, est-ce que ce score du RN, et ce que vous évoquiez à l'instant sur la manière dont le parti est perçu également, est-ce que le score d'hier, c'est le résultat vraiment d'une politique d'adhésion aux idées du Rassemblement national, ou bien est-ce que c'est une défaite du macronisme?
Les deux, entre guillemets, parce que il y a une adhésion, on l'a vu, aux élections européennes. Finalement, les élections législatives sont venues quelque part ratifier le rapport de force dessiné aux élections européennes. Et ce qui se passe dans l'électorat du Rassemblement national, c'est quand même l'idée que je développais juste avant. Le moteur du vote de cet électorat-là, c'est la question de l'immigration, l'idée que nos frontières ne sont pas assez protégées, l'idée que la nation française est en train de décliner. Le déclinisme est vraiment un liant et un moteur de cet électorat-là. Et donc, par effet miroir, c'est aussi parce que Emmanuel Macron, finalement, paye son bilan, quelque part, au bout de 7 ans de pouvoir, et il s'est coupé d'une partie de son électorat, notamment âgé, rural, etc., qui votait beaucoup pour lui encore en 2022, notamment à cause ou grâce de la guerre en Ukraine et des crises successives qu'il a traversées, où il avait beaucoup rassuré cet électorat-là. Aujourd'hui, cet électorat ne vote plus pour lui, notamment parce qu'il y a l'idée que la France décline, qu'il ne protège pas assez les Français, qu'il ne protège pas les intérêts de la France, etc. Il faut bien comprendre que dans l'électorat de droite, aujourd'hui, le moteur, c'est vraiment l'identité, c'est la question culturelle, et à ça, le Rassemblement national a réussi à mieux répondre que ses concurrents, les Républicains, Reconquête et Renaissance.
Avec pour conséquence donc ce score qui est totalement inédit en France, 33% des suffrages exprimés hier au premier tour des législatives pour le Rassemblement national, pour l'extrême droite, ça n'était jamais arrivé. Alors, quel avenir maintenant pour le RN? Là aussi, incertitude. Jordan Bardella a répété durant la campagne qu'il ne serait Premier ministre qu'en cas de majorité absolue. Et d'ailleurs, ça a été bien entendu de la part des électeurs. Je vous propose d'écouter un militant d'extrême droite.
Je dirais que je suis heureux, je suis très heureux. J'attendais ça depuis des années et des années. Mais il ne faut pas non plus se reposer sur le premier tour. Il y a le deuxième tour. Et c'est le deuxième tour qui sera le plus important. Il faut aller voter pour qu'on puisse avoir une majorité au Parlement.
Voilà, un électeur du Rassemblement national, une majorité absolue, dit-il, indispensable pour Jordan Bardella. Marine Le Pen aussi a appelé tous les électeurs, tous les sympathisants à donner une majorité absolue à son parti au second tour dimanche prochain. Mais ce matin, l'un des responsables du parti est un peu moins catégorique. Stéphane Fournier, est-ce que c'est tenable politiquement pour Jordan Bardella de dire aujourd'hui qu'il n'ira pas à Matignon après toute cette campagne et ce score qui est historique ?
Je pense qu'il a plutôt intérêt, à mon avis, à dire qu'il va gouverner, effectivement, pour ne serait-ce que pour essayer d'attirer encore de nouveaux électeurs. Mais finalement, il ne fait que prendre en compte une réalité électorale qui est que le scénario dans lequel la majorité absolue va au Rassemblement national est aujourd'hui un scénario assez peu probable. Pour la simple et bonne raison que malgré les tergiversations du front, de ce qu'on appelle le front républicain, il va falloir faire 51% dans 290 circonscriptions. Or, on sait que ce scrutin uninominal à deux tours est défavorable historiquement au Rassemblement national, qui a toujours du mal à faire 51%, y compris quand il fait des gros scores au premier tour. En fait, ce qui se passe va ressembler beaucoup à ce qui s'était passé aux élections régionales de 2015 en PACA. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où il y avait eu Marion Maréchal qui avait fait 40% au premier tour, qui est arrivé très largement en tête et qui avait quand même perdu le second tour. Donc, effectivement, il y a un risque pour le Rassemblement national que le score à la fin des fins soit un petit peu décevant en nombre de sièges. C'est un scénario possible. Et dans ce contexte-là, effectivement, Jordan Bardella a intérêt quand même à préparer un peu son électorat et à préparer l'opinion, parce qu'effectivement, de fait, il ne pourra pas gouverner, puisque aucun compromis ne sera possible dans le cadre d'une majorité relative. Ce qu'a réussi à faire Gabriel Attal et Elisabeth Borne depuis 2022, c'est-à-dire point par point, à trouver des compromis, un coup avec LR, un coup avec certains socialistes, un petit peu avec les écolos ou les communistes, le Rassemblement national ne sera pas capable de le faire. Et donc, effectivement, Jordan Bardella, de ce point de vue-là, a intérêt à préparer ça, voire même à entamer, si vous voulez, un discours un petit peu trumpien, je dirais, sur la forme, en disant, finalement, on nous empêche de gouverner. Et donc, garder cette posture un peu de radicalité et d'opposant à Emmanuel Macron, qui, finalement, est aussi un carburant du vote Rassemblement national. C'est plus facile d'être dans l'opposition qu'être au pouvoir.
Étienne Ollion, justement, sur cette question-là, sur ce point, l'extrême droite, jusqu'à présent, avait toujours été dans l'opposition. Le Rassemblement national a pris une place dans l'Assemblée lors des dernières législatives en 2022 avec 80 députés. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, l'extrême droite est prête à gouverner, ou est-ce que le RN, en fait, lui aussi, a été pris de court par l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron ?
Ce qui est certain, c'est qu'ils ont été pris de court. Hein. Les leaders du parti annonçaient qu'ils avaient un plan, surnommé le plan Matignon, qui avait pour objectif de placer des candidats dans toutes les circonscriptions. Mais ce plan Matignon, on en a rapidement vu les limites, puisque dans les semaines qui viennent, dans les deux semaines qui se sont écoulées, ils ont investi des candidats dont certains, on l'a appris récemment, ne sont même pas éligibles. D'autres avaient quand même pas vraiment nettoyé leurs réseaux sociaux et laissé des traces d'antisémitisme de manière assez claire. Donc, ils ont été pris de court. Ensuite, pour ce qui est de savoir comment gouverner, évidemment, c'est là que se pose la question. Et je serais peut-être un tout petit peu moins catégorique que mon collègue ici, parce que je crois que, même si c'est vrai que la majorité absolue va être difficile, il me semble à la fois que le scrutin à deux tours a quand même cette propriété de favoriser les personnes qui sont en tête et de construire des majorités solides. Or, qui a la majorité en ce moment ? C'est justement le Rassemblement national. Et ensuite, même s'ils étaient en majorité relative, il n'est pas exclu, à mon avis, on est dans la politique fiction, mais enfin bon, essayons, que une partie des Républicains se rallie d'une manière ou d'une autre dans un format qui sera à définir. Est-ce qu'on appelle ça un soutien sans participation ? Est-ce qu'on appelle ça une coalition de projets au nom, en fait, du déblocage de la France et des institutions ? Et que peut-être qu'à ce moment-là, ils arriveraient à la fois à avoir une majorité et peut-être aussi à avoir des cadres qui, en effet, vont leur manquer sinon, parce qu'ils ont besoin de cadres à l'Assemblée et de cadres pour rentrer au gouvernement et pour le composer.
Voilà, mais pour ça, il faudra donc obtenir dans l'idéal une majorité absolue pour le Rassemblement national dimanche prochain. Le Rassemblement national qui a obtenu, je vous le rappelle, 33% des suffrages hier au premier tour. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir été en ligne avec nous. Stéphane Fournier, directeur d'études pour l'Institut de sondage Cluster 17 et doctorant en sciences politiques. Et Étienne Aulion, chercheur au CNRS, professeur associé à l'École Polytechnique. On va continuer à parler bien sûr de ces législatives en France, de la politique française et notamment de ses conséquences sur l'environnement. Bonjour Igor Strauss.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Au lendemain donc de ce premier tour, on va parler avec vous de l'une des propositions du Rassemblement national, un moratoire sur les éoliennes terrestres et offshore. Donc ça veut dire l'arrêt de la construction de nouvelles installations d'éoliennes. Pour bien comprendre les enjeux, on va peut-être d'abord rappeler ce que ça représente l'énergie éolienne dans le mix énergétique français.
Eh bien, en 2023, selon le RTE, c'est le réseau de transport d'électricité qui gère la distribution électrique, eh bien, l'éolien représentait 10% de la production nationale. C'est la troisième source d'énergie, largement dominée par le nucléaire avec 64,8% et l'hydraulique 11,9%.
Et alors, est-ce que la France peut s'appuyer uniquement sur le nucléaire comme le souhaite le Rassemblement national ?
Eh bien, selon les experts, la demande en électricité du pays va augmenter dans les prochaines années avec le développement des véhicules électriques notamment. Or, eh bien, la production nucléaire seule ne suffit pas. Se passer de l'éolien signifie donc qu'il faut développer le nucléaire. Mais notre parc nucléaire est vieillissant et construire de nouveaux réacteurs, mais après, ça prend du temps, au moins 15 ans. Autre problème, si la France veut respecter ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre, eh bien, elle va devoir diminuer sa consommation d'énergie fossile et donc développer les énergies renouvelables comme l'éolien, se passer de ces énergies comme le souhaite le RN, pour l'instant ça semble illusoire. Et pour Jules Nissen, le président du syndicat des énergies renouvelables, bien, tout miser sur le nucléaire présente d'autres inconvénients.
En réalité, ça veut dire que si on mise tout là-dessus, ben, on n'augmentera pas la production d'électricité. Donc ce qu'il faut lire derrière, c'est que en fait, on va continuer avec les fossiles, mais comme on n'en a pas sur le territoire français, on les importe tous. Donc c'est se maintenir dans une forme de dépendance géopolitique, c'est un choix contraire à un choix de souveraineté, et ça a pour conséquence de jouer au yo-yo avec les prix de l'énergie, d'exposer y compris les consommateurs à des factures énergétiques qui peuvent être extrêmement erratiques.
Alors, dans son rapport Futur énergétique, le RTE, donc le gestionnaire du réseau d'électricité, a fait des projections pour connaître la situation en cas de moratoire sur l'éolien, Igor.
Oui, et les résultats sont sans appel. À partir de 2035, la France manquerait d'énergie bas carbone et à partir de 2050, eh bien, le déficit de production serait tel qu'il faudrait importer de l'électricité venant principalement de centrales thermiques fossiles et donc incompatible avec les objectifs de neutralité carbone. Pour Paul Nissen, le président donc du syndicat des énergies renouvelables, eh bien, le secteur éolien est fondamental pour garantir la souveraineté énergétique de la France, mais également pour des enjeux environnementaux et aussi pour des raisons économiques.
60% de notre énergie, aujourd'hui, on l'importe. Demain, avec des éoliennes, avec des panneaux solaires, avec des bioénergies, on va la produire sur le territoire national. C'est énorme en termes de richesse créée. Juste en France, le secteur de l'éolien offshore, ça représente 1000 emplois de plus chaque année. Donc là, on veut se priver non seulement d'une dynamique de création de 1000 emplois par an, mais en plus, sans doute, mettre en péril les emplois qui existent déjà. Il y en a 8300 au moment où on parle, donc ça n'a pas beaucoup de sens.
Alors pour les experts de l'énergie, il est inutile, hein, donc, voire il est utile, pardon, au contraire, nécessaire même de développer les énergies renouvelables.
Oui, avec un premier objectif d'atteindre 50% d'énergie renouvelable et 50% d'énergie nucléaire, ce qui permettrait, selon les experts, bien, de passer d'une source d'énergie à une autre quand il y a un problème ou un aléa climatique. Si on manque de vent, on passe au solaire, tout simplement.
Voilà, tout simplement. Merci Igor Strauss, il est 13h43 à Paris.
Édition spéciale, élections législatives françaises. Anne Contenet.
On va prendre un peu de distance maintenant. On va se rendre en Europe, dans plusieurs pays du continent, où on suit de très près ces élections législatives en France. D'ailleurs, c'est à la une de quasiment tous les journaux aujourd'hui. La France se déplace plus loin à droite que jamais dans son histoire moderne, écrit le Süddeutsche Zeitung. Macron perd et Le Pen triomphe. Le Soir en Belgique revient sur le score très mitigé de la gauche. De là à se dire que même l'appel au barrage ne suffit plus, se demande le journal. Réponse d'experts interrogés par Le Soir. Il fonctionne de moins en moins auprès des électeurs par rapport aux législatives de 2022. Le score du RN parle de lui-même. La démocratie en France est en train de parler et nous n'avons pas envie de l'entendre. Elle nous fait douter de la possibilité d'une société républicaine universaliste. Ça, c'est à lire dans l'éditorial du journal suisse Le Temps. Hors de France, on ne peut que chercher à comprendre et respecter le résultat des urnes. Espérer que la crise forcera une nouvelle porte, un sursaut, un projet, un rassemblement autre que ceux construits sur l'échec et la colère. Mais à partir de là, les choses se compliquent, titre El País. Ce qui est en jeu, c'est-à-dire empêcher l'accès de l'extrême droite au pouvoir, exige des centristes et des conservateurs modérés de mettre les différences entre parenthèses et de soutenir ceux qui peuvent battre l'extrême droite d'où qu'ils viennent. Voilà la recommandation du quotidien espagnol, alors qu'en Ukraine, la presse s'interroge sur la politique que mènerait Jordan Bardella s'il devenait Premier ministre et s'inquiète d'un éventuel rapprochement avec la Russie. Et on va voir aussi quel regard l'Italie porte sur ses législatives. Bonjour Paolo Levi.
Bonjour.
Vous êtes journaliste italien, correspondant en France, donc vous avez un pied dans les deux pays. Quelles ont été les réactions en Italie depuis hier soir et ce score historique de l'extrême droite en France ?
Énormément de réactions. Ce matin, tous les journaux italiens avaient à la une, disons, le résultat du premier tour des législatives françaises. Je vous cite quelques titres des principaux journaux. La Repubblica qui dit la défaite de Macron, la France divisée, Le Pen gagne. Le Pen, la Stampa écrit triomphe au premier round, etc. Donc c'est vraiment, il faut bien savoir aujourd'hui, peut-être pas tout le monde en est parfaitement conscient, ce qui se décide en France avec ces élections va avoir un impact direct et très profond sur la vie de nous tous, y compris en Italie et dans tous les autres pays d'Europe. Ce qui se joue en France, disons, est vraiment un choix historique aussi par rapport à notre cheminement à la construction européenne que nous sommes en train, ensemble, main dans la main, de construire en ce moment très difficile de guerre qui revient avec l'agression de Vladimir Poutine à l'Ukraine en Europe. Et donc, voilà, ce n'est pas un moment normal de notre histoire. On est souvent avec les yeux rivés sur nos écrans et peut-être on risque parfois de perdre le cadre général. Le cadre général, disons, est un moment où le repli sur soi-même est un choix peut-être qui vient du ventre, mais qui est suicidaire aussi. Et donc, il faut absolument être unis tous ensemble, France et Italie, main dans la main. Il ne faut pas se replier sur soi-même parce que c'est comme s'il niait son arrêt de mort. Donc, vraiment, l'Italie suit ses élections avec grande appréhension et on espère que la fraternité européenne puisse prévaloir sur les nationalismes qui sont vraiment mortifères. On l'a déjà vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, l'homme parfois n'apprend pas de lui-même. C'est comme si tous les 80 ans, on devait faire les mêmes erreurs, mais les recettes nationalistes, c'est vraiment... C'est un suicide.
Qui fonctionne très bien dans plusieurs pays européens, ces discours nationalistes. En Italie, chez vous, l'Italie, il y a un gouvernement d'extrême droite depuis 2 ans maintenant, et Giorgia Meloni est encore populaire aujourd'hui, très populaire même. Pourquoi est-ce que ça marche ?
Ça marche parce que Giorgia Meloni, le jour même où elle a pris le pouvoir, elle a radicalement changé de position, d'approche. Elle a compris, quand elle a vu la complexité du monde, que toute forme de patriotisme passe aujourd'hui impérativement par une dimension européenne et que tout seul, nos pays, s'ils prétendent aller, France ou Italie, tout seul, à affronter les grands défis qui sont les nôtres, vont droit contre le mur.
Mais donc, puisque vous nous parlez de l'Union européenne, en fait, ça marche aussi au niveau européen, puisque Giorgia Meloni travaille avec la présidente de la Commission, notamment Ursula von der Leyen, qui n'est a priori pas exactement de son bord politique. Là aussi, comment est-ce que vous expliquez son succès ?
On explique ça par le pragmatisme, dans le sens que quand on est en campagne électorale, on dit même des énormités parfois pour susciter, disons, une adhésion plus ou moins rationnelle. Mais quand on arrive au pouvoir, et Meloni en est une preuve spectaculaire, on comprend que le monde est bien plus complexe et qu'aujourd'hui, tous les pays européens ont un intérêt vital de rester unis. Donc, J'espère de tout mon cœur que Jordan Bardella, qui est un garçon intelligent et qui en plus a des racines italiennes, donc il est plus européen que nous tous, voilà, mise sur cette échelle européenne, parce que s'il prétend de se replier sur soi-même et de résoudre toutes les questions qui sont les nôtres, les défis au niveau national, on va se faire, mais pulvérisé par la Chine, par la Russie, des grands blocs qui ne partagent pas du tout, mais alors pas du tout nos valeurs. Et donc, je suis sûr que Bardella, il va comprendre. D'ailleurs, j'ai lu dans une biographie que quand il était petit, il fréquentait souvent le restaurant d'un oncle dans le Piémont, dans le nord de l'Italie, qui s'appelle le restaurant Europa. Donc, quel beau signe pour Bardella, vraiment. S'il veut défendre des idées souverainistes, etc., qu'il le fasse, mais ce souverainisme, il doit être à l'échelle européenne. Parce que
manifestement, l'Union européenne n'est plus complètement exclue, et le Rassemblement national a bien compris qu'il fallait aussi travailler au niveau européen. Et on l'a vu notamment ces dernières semaines et pendant la campagne pour les européennes et les jours qui ont suivi les élections du 9 juin, puisque Marine Le Pen a fait quand même plusieurs appels du pied à Giorgia Meloni. Est-ce que ce succès-là très fort de l'extrême droite en France, ça pourrait, selon vous, conduire à un rapprochement entre Giorgia Meloni et Marine Le Pen et faire bouger les lignes au Parlement européen?
C'est très difficile, vous savez, parce que c'est drôle, mais le pire ennemi de tout nationaliste est le nationaliste de la porte d'à côté. Je prends seulement un exemple, une des dernières annonces qui a été faite par le Rassemblement national en clôturant la campagne pour les européennes a été un recours contre le pacte asile et immigration, et notamment contre le principe de relocalisation des migrants parmi les 27, qui est la grande victoire que Giorgia Meloni vend chez nous, au niveau national, comme le grand progrès qu'elle a permis de réaliser, et que Marine Le Pen, aujourd'hui, veut remettre en question. Donc, comme vous voyez, les recettes nationalistes, c'est pas un hasard si à chaque fois elles conduisent aux guerres, parce qu'elles ont une vision très court-termiste qui mathématiquement va droit contre le mur.
Merci beaucoup Paolo Levi d'avoir été en ligne avec nous, journaliste italien et correspondant en France. On va rejoindre maintenant notre correspondant à Bruxelles, puisqu'on a beaucoup parlé de l'Union européenne, pour voir comment ce score inédit de l'extrême droite est perçu par les institutions. Alors, il n'y a pas encore de réaction officielle, Jean-Jacques Herry. D'ailleurs, il n'y en aura pas avant le résultat du second tour dimanche prochain, mais clairement, les résultats d'hier viennent confirmer toutes les craintes à Bruxelles.
Les interrogations et les doutes se font plus précis et plus lourds. On se demande à Bruxelles quelles pourraient être les conséquences de l'arrivée du Rassemblement national, parti anti-européen, à la tête d'un État qui est l'un des membres fondateurs de l'UE, à la fois deuxième contributeur au budget de l'Union européenne et second pays le plus peuplé, et qui, historiquement, et encore ces dernières années sous la présidence d'Emmanuel Macron, a eu un rôle moteur en Europe.
Alors quelles sont ces craintes précisément, Jean-Jacques ?
Eh bien, celle induite par le partage du pouvoir européen dans le cadre d'une cohabitation avec un chef d'État qui sera politiquement forcément affaibli, même s'il continuera de siéger au Conseil européen. Cela a déjà commencé d'ailleurs sur la question du futur commissaire européen français. Traditionnellement, c'est le président français qui propose un nom. Emmanuel Macron a ainsi déjà fait savoir qu'il voudrait voir Thierry Breton reconduit dans le nouveau collège des commissaires. Mais cette fois-ci, Jordan Bardella, qui pourrait devenir Premier ministre si le Rassemblement national obtenait une majorité absolue, a annoncé que lui aussi proposerait un candidat, on pourrait assister ici à un premier bras de fer. Et puis si c'est un autre type de coalition construite pour l'occasion qui l'emporte, cela pourrait se traduire par une perte d'influence française, avec notamment des ministres français qui éventuellement pourraient se contredire d'une réunion à l'autre, et donc mènerait in fine à une politique européenne plus floue.
Mais cette possibilité-là ferait moins peur que le Rassemblement national ?
Oui, parce qu'une partie du programme de l'extrême droite est clairement anti-européen et pourrait remettre en cause beaucoup de choses dans une opposition frontale à l'Union, et ce, alors que la France y avait jusque-là un rôle moteur. Parmi les sujets qui inquiètent, il y a celui du soutien à l'Ukraine, notamment du fait de la proximité longtemps affichée du RN avec la Russie. Et puis il y a également une grande interrogation économique. Alors que la Commission a ouvert la voie à une procédure pour déficit public excessif contre la France il y a une dizaine de jours, Paris étant censé présenter à l'automne son plan budgétaire de correction pour les 4 années à venir. Que se passerait-il si d'aventure la France décidait de ne pas respecter ses engagements européens, notamment budgétaires ? Est-ce qu'il serait alors aussi facile de sanctionner un poids lourd européen comme la France en la privant de fonds européens qu'un pays comme la Pologne ou la Hongrie ? Là encore, on entre dans l'inconnu.
Jean-Jacques Herry, correspondant à Bruxelles. Beaucoup de questions donc au niveau des institutions européennes et puis des réactions évidemment ce matin dans les pays voisins de la France. Le Premier ministre espagnol, socialiste, fait savoir qu'il croit en la mobilisation de la gauche française et Pedro Sanchez ajoute « On gagne toujours contre l'extrême droite en mettant en place des politiques progressistes ». Autre réaction, le Premier ministre polonais, pro-européen, Donald Tusk, évoque un grand danger pour la France et pour l'Europe. En tout cas, ce succès de l'extrême droite en France, il inspire en Allemagne. Le parti AfD, en forte progression lui aussi aux élections européennes du début du mois de juin, mais en position difficile au Parlement, puisque le mouvement a été exclu du groupe d'extrême droite ID. Eh bien, aujourd'hui, le député allemand Norbert Kleinwächter aimerait que son parti entame le même processus de dédiabolisation que celui qu'a effectué ces dernières années le Rassemblement national. Et il fait même du parti de Marine Le Pen un exemple à suivre.
Dans l'AFD, il y a quand même un débat sur ce sujet-là. Est-ce qu'il faut s'approcher un peu du centre, disons, devenir un parti comme tous les autres, comme vous l'avez dit, ou est-ce qu'il faut devenir plus radical même? Moi, je suis tout à fait de l'avis qu'il faut effectivement être un parti qui veut aller au gouvernement. Donc, il faut convaincre les personnes, il faut convaincre les électeurs, et il faut se présenter d'une manière tout à fait professionnelle. Idéologiquement, c'est très très clair qu'on a notre programme, et je crois que c'est la chose que Marine Le Pen a très très bien fait. Elle a un programme, et elle a aussi mené son parti à un professionnalisme absolument adorable, avec Jordan Bardella, qui est un très bon candidat, avec elle-même. Pour elle, c'est vraiment une recette de succès que je veux bien que l'AFD copie. Et effectivement, il faut être plus solide pour l'avenir, parce qu'on a des élections très très importantes qui viennent en Allemagne de l'Est et aussi les élections fédérales l'année prochaine. Il faut du très bon travail dans l'avenir, effectivement, et ça sera la confiance qu'on donne peut-être pour la dernière fois à la coprésidence actuelle pour montrer qu'elle peut effectivement bien gérer le parti et qu'elle peut nous garantir le succès qu'il faut.
Comment vous avez perçu la distanciation prise par le Rassemblement National par rapport à votre parti? Est-ce que vous estimez que les critiques sont justifiées, qu'il y a vraiment des différences de fond majeures qui expliquent cela, ou bien ça fait uniquement partie de la stratégie de pouvoir de Marine Le Pen en France?
Bah, effectivement, il faut respecter le bon travail que le Rassemblement National fait en France. Effectivement, il y a les élections législatives maintenant, il y a l'élection présidentielle bientôt. Donc la France, c'est beaucoup plus important pour eux que effectivement la coopération européenne. Donc effectivement, ils ont dit il faut être prudent avec l'AFD, donc on va pas travailler ensemble. Ça peut changer à tout moment. Je suis très optimiste que dans un an ou deux, on pourra travailler ensemble de nouveau. Politiquement, on est tout à fait à côté du RN.
Voilà le député allemand Norbert Kleinwächter au micro de notre correspondant en Allemagne, Pascal Thibault. La montée de l'extrême droite, des extrêmes droites, c'est une vraie question en Europe. On vient de parler de l'Allemagne, on a parlé aussi de la situation en Italie. Mais plus largement, aujourd'hui, il y a une question qui se pose parce que aujourd'hui, la présidence tournante de l'Union européenne change de main et c'est la Hongrie qui prend les rênes pour 6 mois. Cela inquiète les milieux européens étant donné les relations qui sont particulièrement difficiles entre Bruxelles et le Premier ministre hongrois. Inquiétude en particulier concernant l'aide à l'Ukraine que Viktor Orban a essayé de freiner à plusieurs reprises. Je vous propose d'écouter Katalin Cseh. Elle est membre du parti d'opposition hongrois Momentum et députée européenne au sein du groupe Renew. Elle se dit préoccupée, elle aussi, de l'impact que pourraient avoir ces 6 mois de présidence hongroise.
Au cours des dernières semaines, durant la campagne électorale pour les européennes, Viktor Orban a présenté Ursula von der Leyen comme une ennemie de la Hongrie. Et il a accusé la bulle de Bruxelles, comme il dit, de choses absolument scandaleuses et qui sont des mensonges. Par exemple, de vouloir envoyer les jeunes hongrois faire la guerre. Après cela, on se demande s'il est capable de jouer honnêtement le rôle d'intermédiaire, d'autant que la Hongrie a été sanctionnée par l'UE pour avoir violé les règles de l'état de droit. Je m'inquiète également de savoir s'ils seront capables de mettre en œuvre des mesures très importantes, par exemple l'utilisation des avoirs russes gelés pour la reconstruction de l'Ukraine. J'espère que la présidence hongroise a pris conscience de l'importance de ce rôle et de l'énorme responsabilité qui lui incombe à cet égard. Et j'espère qu'elle ne se laissera pas dominer en cette période importante par son propre agenda politique national et par sa lutte incessante avec la bulle bruxelloise.
Voilà la députée européenne au sein du groupe Renew, Katalin Cseh. Pendant les 6 prochains mois, c'est donc le Premier ministre hongrois Viktor Orban qui va présider les sommets des dirigeants de l'Union européenne. Le chef du gouvernement belge, Alexander De Croo, qui occupait ce poste jusqu'à présent, a quelques conseils à donner à l'issue du sommet de jeudi dernier à Bruxelles. Il a glissé une petite recommandation à son successeur, qui est un eurosceptique convaincu.
Être président du Conseil de l'Union européenne, ça ne veut pas dire que vous êtes le chef de l'Europe. Ça implique que vous êtes celui qui doit faire des compromis. Et être dans la position de celui qui cherche des compromis, ça peut être intéressant, au moins une fois dans votre vie. C'est ce que je conseille vraiment à Monsieur Orban.
Voilà les conseils avec un peu d'ironie du chef du gouvernement belge à Viktor Orban qui prend aujourd'hui les rênes de l'Union européenne pour 6 mois. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale consacrée aux législatives en France. On va y revenir bien sûr tout au long d'RFI Midi.